Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Moi, j'aime bien ça, voir évoluer le monde. Comment que le monde marche avec ça. Qu'est-ce que le monde pense. Il y en a qui sont pas contents, il y en a qui sont contents. Le fameux masque. C'est ça, le COVID, il y en a qui croient même pas à ça, il y en a qui croient à ça. Il y en a qui, avec les réseaux sociaux qu'on a à cette heure, qui mettent toutes sortes d'affaires. Moi, il me semble que de toute façon, on connaît du monde qui travaille dans des hôpitaux. Eux autres, ils doivent le savoir plus que nous autres. Là. Ils sont témoins de ça, ils sont là, eux autres. Puis, les mesures de sécurité qu'il y a eu de fait pour ça, comme ils citent, là, mettre le masque quand on se lève, toutes ces affaires-là, ça n'a pas été mis là pour le fun, selon moi. Je vais vous lire un passage. C'est sûr que ça parle pas des masques directement, mais ça parle de comment adopter une façon de réagir, de penser face à ça. Puis Jean-Sébastien, tu m'as un peu volé mon passage parce que tu l'as dit. Matthieu 20, 25 à 28. Je vous lis ça. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Je pense que ça veut tout dire. Là. Si Jésus serait là, il dirait pas « Ouais, le masque, là, moi, je pense qu'il ne le mettrait pas. » Puis Jésus, quand il est venu sur la terre, il respectait les lois. Les lois qui étaient là, il y avait des lois qui étaient bonnes quand même. Là. Donner les impôts puis tout. Là. Les impôts, ça sert à de quoi là, quand même? Fait que... Puis Jésus, il a vécu de quoi de beaucoup plus dur que mettre un masque. Si ça aurait été juste ça, lui, ça aurait pas été dur pour lui. Il aurait juste trouvé ça drôle. Puis pour terminer, même s'il y a des gens qui pensent que c'est une injustice, je vais pas trouver le passage, là, mais il me semble qu'il y a un passage qui dit que si vous avez à subir quelque injustice, que ce soit pour la gloire de Dieu ou quelque chose de même, là. Je me souviens pas c'est quel passage, là, mais je me souviens de ça qu'il y avait ça. Fait que c'est ça que je voulais vous apporter ce matin. C'est juste, c'est pas juste l'histoire de mettre un masque ou de pas en mettre. C'est notre façon de penser en tant que chrétien. Parce que, je connais beaucoup de chrétiens qui mettent plein d'affaires sur Facebook puis qui sont contre ça, puis mettez les pots, puis révoltez-vous, puis je pense pas que c'est ça que Dieu attend de nous autres. Fait que merci tout le monde, puis passez un bon dimanche.
Vous pouvez tourner dans 1 Jean, chapitre 4. On va lire ce passage-là plus vers le milieu ou la fin de mon message. Mais ça va être là qu'on va tourner ce matin. OK. Donc, la vidéo qu'on a vue, c'était une présentation de mon message de matin. Fait qu'à la fin, il va y avoir une petite vidéo d'une minute pour mercredi parce que c'est la suite de mon message de matin. Alors, ce matin, on continue une série de 2 messages. Donc, le dernier message de ma série. Le titre de la série, c'est « Aimer le monde au travers de Christ ». Et puis, On a parlé la dernière fois que j'ai prêché sur le fait qu'on devait prendre le joug avec Christ, puis que le joug, c'était un collier qu'on mettait sur deux animaux pour effectuer une tâche. Fait que je vais continuer dans ce sens-là aujourd'hui, que c'est important de prendre ce qu'on connaît puis de l'amener dans la pratique. Si ce que je comprends, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je vais amener en pratique éventuellement, si ça me sert pas à mettre en pratique, c'est dans mon coude. Faut que je mette ça en pratique, c'est dans mon coude. Eh bien, je me séduis moi-même. Puis, je suis en train de devenir un dictionnaire sur pattes, mais c'est pas ça que Dieu a voulu nécessairement. Il n'est pas contre la connaissance, mais il veut que je prenne ce que je comprends puis que je le mette en pratique. Un jour, j'étais en train de crinquer mon cabanon avec un petit cric de rien là qui peut pas aller plus haut que ça. Puis, j'avais les jeunes de la jeunesse qui cordaient mon bois, j'étais béni. Fait que j'ai dit, ben pendant que les autres font ça, moi, je vais essayer de remettre mon cabanon droit. Puis là, je crinquais, puis là, ça partait dans tous les sens. Fait que là, je leur baissais, je mettais des céramiques de salle de bain en dessous pour donner une assise à ça. Puis là, je le levais, puis Gilles vient me voir, puis il dit, qu'est-ce que tu fais, là? Ben, j'ai dit, je suis en train d'essayer de mettre mon cabanon au niveau. Il dit, tu n'y arriveras pas. J'avais pas l'outil. J'avais pas la connaissance non plus pour faire ça, fait que je l'ai laissé croche. Il devait y avoir au moins un pied et demi de dénivellation sur 12 pieds. Là. Et puis, il aurait fallu que j'y revienne de toute façon. Peu importe ce que j'aurais fait, j'avais pas ce qu'il fallait pour le mettre comme il faut sur ces fondations-là. J'avais besoin d'une solution qui était plus permanente. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une réparation ou d'effectuer un travail puis de réaliser que vous aviez soit pas les bons outils, soit vous aviez pas les bons conseils. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu à côté de vous, puis il vous a montré comment faire, puis vous savez que la prochaine fois que vous allez avoir à faire cette tâche-là, bien, vous allez avoir gagné de l'expérience. Imaginez que vous avez une compagnie qui est experte dans le service à la clientèle. Vous vendez un service, je ne sais pas, un service de nettoyage, n'importe quoi. Puis pour vous, là, les relations avec les clients sont importantes. Puis là, vous partez pour un long voyage, 2 ans, puis vous souhaitez revenir. Qu'est-ce que vous voulez laisser avant de partir à ces gens-là qui vont vous remplacer? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils sachent? Qu'ils connaissent juste des choses sur le produit, sur le service que vous vendez, ou il faut que ça aille un petit peu plus loin que ça? Voulez-vous que ça aille plus loin que juste ils savent à propos du produit, ils savent comment le service ça fonctionne? Puis non, vous voulez certainement qu'ils sachent plus à propos du produit ou du service, mais vous voulez aussi qu'ils connaissent l'importance des relations. Quand les clients y arrivent, vous ne voulez pas qu'ils voient les employés chicaner entre eux autres. quand que les clients arrivent ou quand ils ont à intransiger, puis le client y arrive, puis il y a une plainte, vous voulez qu'ils fassent un service à la clientèle qui vous représente. T'sais. Autrement dit, vous voulez avoir encore des clients quand vous allez revenir dans 2 ans. Eh bien, Jésus-Christ nous a laissé l'Église. Puis il nous a dit de s'aimer les uns les autres. Puis à l'amour qu'on aurait les uns pour les autres devant le monde, les gens reconnaîtraient que Dieu a envoyé son Fils Jésus, puis qu'on est de sa famille. C'est tout un mandat qu'il nous a laissé. Mon message, donc, c'est un message d'aimer le monde au travers de Christ. Mais ça peut devenir très frustrant d'essayer de faire quelque chose pour Dieu parce qu'on réalise qu'on tombe en faillite tout de suite. Parce qu'on aime juste ceux qui nous aiment, on aime ceux qui sont bons avec nous, qui sont gentils avec nous, mais on n'aime pas nos ennemis. Puis on ne fera pas 1 000 de plus avec eux autres. Fait que ça devient très frustrant, très rapidement, que d'essayer d'aimer le monde comme Jésus les aime. Et Jésus dit, hey, je suis ton mentor. Je suis ton mentor, je vais venir à côté de toi, puis je vais t'aider à apprendre, puis je vais t'aider à transférer ce que tu connais de l'amour de Christ à quelque chose de pratique. Tu vas le mettre en pratique avec les gens de ton entourage. Donc, Jésus nous invite à marcher avec lui. Puis il nous dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Et je vais marcher avec toi. Puis quand tu vas en faire des disciples, enseigne-leur pas juste des choses que j'ai faites pour eux, mais des choses qu'ils devraient faire pour moi. Enseigne-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, Jésus va dire. Fait qu'on est sommé par Jésus de lui obéir, puis de faire comme il a fait, de marcher comme il a marché, puis d'aimer comme il a aimé. Mais il nous dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, je vais prendre ce joug-là, on va marcher ensemble, puis le Saint-Esprit en toi va faire que tu vas être une personne qui est différente des gens du monde, parce que toi, tu as l'Esprit qui est en toi. Jésus, on a vu dans mon dernier message, Jésus dit, moi, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Aujourd'hui, on va regarder, Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. » C'est dans Jean 3, 17, tout de suite après avoir dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il dit, « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour sauver le monde. » Jésus, quand il vient, il a un but pourquoi il vient sur la terre. Et si je suis son disciple, j'ai aussi un but sur la terre. Le but, c'est plus comme une destination où je m'en vais en bateau, puis des fois, je m'en éloigne trop de mon but. Je ne suis pas en train d'aller vers mon but, mais je m'en ramène. Puis là, je lis la parole, je prends des cours, j'entends des choses sur Dieu, puis oups, je me reviens, je m'enligne un petit peu plus vers mon but. C'est pas comme une raille où je déraille, mais c'est plus comme, OK, ça, c'est la destination ici, il y a un but. Puis Jésus, là, ce qu'il veut faire, c'est sauver un maximum de gens. Et comment il le fait? Il le fait en montrant son amour envers eux. Le meilleur exemple de ça, c'est la croix, bien sûr, mais c'est pas juste ça, c'est comment il a marché quand il était au milieu de nous. Quand on lit les évangiles, on s'aperçoit qu'il venait pour bâtir des ponts. Puis le but de notre vie, c'est pas d'avoir une sécurité financière, d'être important dans le monde, puis finir avec une belle retraite. Parce que quand on va être mort, on va réaliser que notre but était beaucoup plus grand que ça sur la terre. C'est quoi? C'était de connaître le but de Jésus-Christ, puis en tant que disciple, c'est d'embarquer dans ce but-là. On a vu que le joug de Christ, ce n'était pas sa croix, c'était le service qu'il rend au monde. On a vu dans le dernier message que le champ, c'est le monde, puis que le Fils est venu pour labourer dans le monde, puis semer dans le monde quelque chose, dans son jardin. Donc, le but, c'est pas la sécurité, l'importance, finir avec une belle retraite. C'est même pas d'être heureux. Le but de la vie, c'est même pas d'être heureux. Le but de la vie, c'est de rentrer dans le joug avec Christ. Puis la Bible, elle nous dit, si vous faites ces choses-là, vous allez être heureux. Il dit dans Jean 13, 7, après avoir lavé, moi qui suis le maître de tous, je vous ai lavé les pieds, comment, à plus forte raison, vous devriez vous laver les pieds les uns aux autres. Puis il va dire, si vous faites ces choses, vous êtes heureux. Pas si vous les savez. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et donc, il y a un bonheur à suivre Christ, à rentrer avec lui dans le but de la vie, qui est d'aimer Dieu puis d'aimer son prochain. Jacques 1, 25 va dire la même affaire, qu'on va être heureux dans toutes nos activités. Un passage qu'on va regarder à l'écran aujourd'hui, c'est dans Michée 6 au verset 8. Michée 6. 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Simple. Fais ce que tu penses qui est juste à faire, aime la miséricorde, puis marche humblement avec ton Dieu. On va mettre l'emphase aujourd'hui sur aimer la miséricorde. Aimer la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'amour de Jésus-Christ, c'est un amour qui fait deux choses. Elle pourvoit d'une capacité de répondre. La Bible a dit, on aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, l'amour vient créer une réponse. Quand tu aimes quelqu'un, tu viens créer une réponse ou une capacité à l'autre de répondre à cet amour-là. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Donc, elle pourvoit d'une capacité pour répondre. Deux, elle vient racheter. Elle vient racheter quoi? Elle vient racheter, c'est-à-dire qu'elle vient vers une personne qui ne le mérite pas, puis elle vient tendre un pont, puis elle dit, même si tu m'as offensé, même si tu m'as blessé, même si tu as péché contre moi, je viens te tendre la main. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, je suis venu pour sauver le monde, Jésus nous disait. Alors Jésus, quand on la regarde vivre, on s'aperçoit qu'il va avec des prostituées, puis il va avec des les gens de ta propre race, mais qui t'ont trahi parce qu'ils sont allés avec Rome, puis ils te chargent deux fois plus de taxes, puis ils te chargent des impôts, puis c'était vraiment pas correct la façon qu'ils faisaient ça, les publicains. Donc, c'est écrit que dans Matthieu 9, que Jésus il était assis, puis il mangeait avec des publicains, puis des gens de mauvaise vie. Puis, les disciples de Jésus, les pharisiens vont voir les disciples de Jésus puis disent, tu fais rien, ça te dérange pas que ton maître, il mange avec des prostituées puis des gens de mauvaise vie. Puis Jésus entend ça. Fait qu'il va dire au verset 13 de Matthieu 9, il va dire, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus dit, hey, allez et apprenez. D'abord, la théorie, c'est important. C'est important d'apprendre la miséricorde. C'est important de comprendre dans les Écritures, c'est quoi la miséricorde de Dieu? Allez, apprenez que je prends plaisir à la miséricorde. Jésus était assis avec des gens, pas pour dire, hey, toi, la prostitution, là, c'est super, continue. Toi, tu voles tes frères, continue comme ça, puis je t'approuve dans ton péché, puis il n'y en a pas de problème. Non, non, Jésus, il disait, il appelait jamais le péché bien. Sauf qu'il disait, je suis en train de créer une capacité, là. Je suis en train d'attirer des hommes, là. Je suis en train de. Sa miséricorde, c'était ça qu'elle faisait. Donc, la miséricorde, c'est de ne pas donner aux hommes ce qu'ils méritent. Hein? C'est une bonté qui est manifestée même et qui est manifestée même en présence de l'indignité ou même de l'offense. Donc, dans l'Ancien Testament, quand on voit l'historique du mot, au début, c'était plus une pitié envers un pauvre. Des œuvres de miséricorde, vous allez entendre ça des fois, des œuvres de miséricorde. Mais plus qu'on avance, plus qu'on s'aperçoit que la miséricorde montrée envers Jésus-Christ, c'est qu'on était tellement pauvre qu'on ne pouvait pas se rapprocher de lui, que lui est venu, puis il a eu pitié de nous dans ce sens-là, puis il nous a montré sa bonté, même si on avait péché contre lui. Fait que Jésus, c'est un maître dans l'art de donner aux hommes, de ne pas donner aux hommes ce qu'ils méritent. De marcher humblement avec eux, c'est ça. Fait que là, le passage nous dit, l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, on marche avec lui, puis lui, c'est un expert dans l'art de ne pas traiter les gens selon ce qu'ils méritent. De ne pas faire aux autres comme on lui a fait. Lui, c'est un expert dans ce domaine-là. Puis il dit, hey, embarque avec moi, je vais t'enseigner dans la pratique. Je vais t'enseigner la miséricorde. Allez et apprenez la miséricorde. Donc, lui, c'est un expert, puis il marche avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous demande d'obéir à ses commandements jusqu'à la fin, puis il va être avec nous. Puis il dit qu'il faut marcher humblement avec son Dieu. Ça veut dire quoi, ça, marcher humblement? Marcher humblement, c'est d'être enseignable. Lui est l'expert, puis il va me dire là où est-ce que je manque d'amour. Il va me dire une meilleure façon. 1 Corinthiens 12, 31 va appeler cette façon-là la voie de l'excellence. Après avoir parlé des dons dans l'Église, de ceux qui font ci dans l'Église, de ceux qui font ça dans l'Église, Paul dit, je vais maintenant vous montrer une voie par excellence. Et il va prendre un chapitre au complet, le chapitre 13, qu'on connaît tous, qu'on entend dans des mariages, 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour est charitable, l'amour ne se vante pas, etc., etc. Donc, plein de qualificatifs de cette voie-là. Et donc, notre maître, qui est maître dans l'art d'aimer ses ennemis, puis de faire du bien à ceux qui lui veulent du mal, eh bien, il va nous enseigner la miséricorde. Il va nous apprendre pratiquement la miséricorde. Mais il faut être enseignable. Avez-vous déjà essayé de montrer quelque chose à quelqu'un qui sait tout, qui sait mieux? Hein? Dans Karate Kid, je pense que c'était ça. Je ne sais pas dans quel film, mais le gars, il avait une tasse, il l'a mis à l'envers, puis il a versé de l'eau dessus. Il montrait à son disciple, je peux pas rien te montrer. T'sais. Je me rappelle pas trop c'est quoi. Moi, j'ai l'avantage de ne pas me souvenir de rien, fait que je peux écouter des films plusieurs fois. Fait que je sais pas dans quelle série que j'ai regardé ça, en tout cas. Donc, être enseignable. Dieu va nous montrer à aimer différents des gens du monde. Il dit, dans le monde, on meurt pour quelqu'un de bien, mais personne ne meurt pour son ennemi. Mais Jésus, lui, il l'a fait. Fait qu'on va apprendre de lui, on va marcher avec lui, puis on va apprendre à aimer différemment que dans le monde. Proverbe 11, 2 dit « La sagesse est avec les humbles ». Qu'est-ce que veut dire la sagesse? La sagesse, c'est de prendre quelque chose que je comprends, puis c'est de faire quelque chose avec ça. C'est un savoir-faire. Si tu trouves un homme sage, il se trouve près des rois, le livre des Proverbes va nous dire. Pourquoi? C'est des hommes qui ont du savoir-faire. Ils prennent ce qu'ils savent, puis ils le mettent en pratique. Dans Proverbe 23, 1, c'est écrit que l'insensé méprise ta sagesse. Donc, c'est pour ça qu'il est insensé. Pourquoi? Il n'accumule pas de savoir parce qu'il n'est pas capable de faire du savoir-faire, il n'est pas capable d'appliquer. Alors, Dieu, aujourd'hui, ne veut pas juste nous donner une connaissance de sa miséricorde, il veut qu'on sorte d'ici avec des outils, il veut qu'on mette des choses en pratique, il veut transférer son fardeau. Et c'est là que, oui, il y a les prédications, oui, il y a les cours, oui, il y a ma lecture biblique, oui, il y a mes réflexions avec Dieu, mais il y a la « viens-t'en, on va le faire ensemble. » On va le faire ensemble, je vais être avec toi, tu ne seras pas tout seul là-dedans. Ouais, mais c'est infaisable ce que tu me demandes de faire, tu me demandes d'aimer mon adversaire. Bien, il dit, on va le faire ensemble. Viens, et on va aller dans le laboratoire. L'apprentissage doit nécessairement passer par la théorie. C'est une collection d'informations que j'ai, que si j'ai pas ça, Saint-Esprit a rien pour avec quoi il va travailler. J'ai besoin de formation, j'ai besoin de comprendre la théorie. C'est ma fondation, mais c'est la pratique qui va me rendre complet. Dieu m'apprend sa miséricorde comment? Oui, il me l'apprend dans la pratique, quand je vois qu'il ne me traite pas selon ce que je mériterais, bien souvent. Je lis la Bible, puis j'apprends à propos de cette croix-là. Je réalise qu'encore là, c'est sa miséricorde. Je tourne dans Romains chapitre 2, qu'est-ce que je vois? La richesse de la bonté de Dieu fait que Dieu il est patient. Dieu il est longanime, ça veut dire qu'il endure dans le temps, il ne réagit pas dans le temps, il est patient, il endure quelque chose longtemps dans le but de nous amener à une repentance. C'est pas parce qu'il n'agit pas qu'il n'agira pas. Ça veut juste dire que présentement, on est dans un air de grâce où Dieu montre la richesse de sa bonté pour que l'homme change ses voies, pour que l'homme revienne à lui. Quelqu'un me disait dernièrement, « Ah, Dieu, il devrait donner des cancers aux gens pour qu'ils se réveillent et qu'ils réalisent qu'il y a un créateur. » J'ai dit, « Tu sais quoi? » Je ne pense pas que c'est son outil de choix. Puis la personne qui disait ça, elle avait peut-être besoin de revenir à Dieu. Fait que j'ai dit à cette personne, toi, ça va prendre quoi pour que tu reviennes? Un cancer? Je dis non. Sa bonté. Le fait justement qu'il ne t'en donne pas un. Des fois, on pense à quelqu'un qui a un accident. Hey, ça, c'est un avertissement. On me l'a dit la prochaine fois, je te ramène à la maison. J'aime mieux penser que Dieu dit qu'il avait pas encore, il y a encore du temps qu'il laissait à cette personne-là. Elle a failli mourir, elle n'est pas morte. Tu vois-tu comment Dieu il t'aime et il veut te bénir? Tu sais. La richesse de sa bonté qui nous amène à la repentance. Mais dans le chapitre 2 de Romains, il dit que l'homme il finit par prendre ça pour acquis. Ben, Dieu ne juge pas. Dieu ne juge pas, Dieu ne punit pas. Mais non, ça crée une capacité pour racheter. Tu sais. Donc, on ne devrait pas prendre pour acquis que la patience de Dieu, c'est qu'il n'est pas en colère contre le péché. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en colère contre le péché, ça veut dire qu'il attend avant de faire une action. Il tarde à corriger. On ne doit pas prendre ça pour acquis, on doit apprendre sa miséricorde, puis dire, hey boy, tout ce temps-là où je n'ai pas reçu ce que je méritais. Nous, on est des fois plus comme le Jean, le fils du tonnerre, qui à un moment donné, on a entendu ça dans le message de Pasteur Richard la semaine passée, que les Samaritains avaient empêché Jésus de passer, puis Jean il a dit, ben, on va faire descendre le feu du ciel, tu sais. Des fois, on est plus comme ça. On va prier pour nos ennemis, mais pour qu'il y ait un air climatisé qui leur tombe sur la tête en sortant de chez eux. Ce que je veux dire par là, c'est que naturellement, on n'est pas longanime. T'sais. Mais pourquoi est-ce que ça doit passer par la pratique? Oui, c'est important. On va continuer ici à dire que la formation biblique est importante pour tous les croyants. On va continuer à prêcher. Puis d'ailleurs, quand les églises commencent à plus prêcher ça, il y a des affaires bizarres qui se passent. Il y a des enseignements bizarres qui peuvent entrer dans l'Église. Tu sais. Fait que c'est important. Mais il faut arriver à un endroit où Jésus dit, « OK, à cette heure que tu as appris sur ma miséricorde, à cette heure que tu comprends bien, je t'amène voir ton beau-frère. Puis je vais te montrer comment agir différemment. Différemment que tu as toujours fait, avec tes pensées naturelles, mais avec la miséricorde. Voici une situation avec ton patron difficile. » Avec un membre de ta famille ou quelqu'un de l'Église. Je veux que tu aimes la miséricorde, puis je veux que tu marches humblement avec moi. Je vais te montrer une nouvelle façon de faire. Il va nous instruire. Alors, quand j'ai gradué, j'ai pris des cours en informatique, puis j'ai gradué, j'ai été 9 mois sans le pratiquer. Puis à un moment donné, ils m'ont donné un projet, puis je suis venu là. Je pense que je ne me suis pas mis de déodorant cette journée-là. Je suis venu comme... tout mal, puis là, ils chargeaient 100$ pour le travail que je faisais, mais c'était comme... J'étais allé marcher dehors, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, on dirait que j'ai oublié ma formation. Là, j'étais nerveux, je manquais d'assurance, puis tout ça, fait que j'étais obligé quand même d'arriver à un endroit où je dis, là, excuse-moi, là, j'ai une formation, puis à mon âge, si je le pratique pas, je le perds, c'est sûr. Fait que j'ai besoin d'aller dans mon domaine, fait que j'ai quitté, je suis allé dans un nouvel endroit, comme je vous disais, puis là... dans mes premières évaluations, c'est Jean-Sébastien manque d'assurance et pose beaucoup de questions. Fait que là, est-ce que j'ai hâte à ma prochaine évaluation? Oui, parce que j'ai pris de l'assurance. Je fais ça 8 heures par jour, je me pratique des fois 10 heures par jour. Fait que je me pratique, je deviens bon, puis je pose quasiment plus de questions. Fait que je sais que quand je vais passer à ma prochaine évaluation, c'est comme ça va être comme un petit peu tassé. La pratique, c'est ça qui nous rend complets. C'est ça qui nous donne de l'assurance. C'est ça qui nous fait sentir qu'on est dans notre coche en tant que chrétien. Si on aime comme Christ nous aime, si on de plus en plus on marche dans la pratique de cet amour-là, plus qu'on a de l'assurance. Puis un jour, sais-tu quoi, on va arriver devant Dieu, on va dire, j'ai bien fait bien des erreurs, mais j'ai essayé de comprendre ta miséricorde. J'ai essayé d'aimer les gens autour de moi, puis je suis prêt à te faire face, Seigneur. Non pas que j'ai été parfait, mais j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de grandir, j'ai de l'assurance parce que je me suis pratiqué. Hein? Donc, c'est la même chose pour la vie chrétienne. On m'appelle chrétien, pourquoi? Parce que simplement, j'ai cru, hein, dans 1 Jean 4,16, c'est écrit, « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Donc, on est appelé chrétien parce qu'on a cru qu'on était assez pécheurs pour que Christ meure pour nous. Mais on a gradué de cet amour-là simplement en disant, « Tes œuvres, ma bénédiction. » Je suis le résultat de ton œuvre, j'ai cru à ton amour, je suis l'objet de ton amour, je suis un chrétien. Dans 1 Jean 3,1, un chapitre avant, il va dire, « Voyez de quel amour Dieu nous a aimés en ce qu'il nous a appelés enfants de Dieu. » Mais, c'est bien beau de graduer, de comprendre, là, j'ai compris l'amour que Dieu a pour moi, je l'ai saisi, je l'ai reçu ici, j'y ai cru, il est mort pour moi, ça me touche. Je suis un chrétien. Dieu m'a appelé enfant de Dieu. Alléluia, je suis content. Mais c'est la pratique de cet amour-là qui va me donner de l'assurance. On va lire dans le passage que je vous disais, là, qu'on voulait lire ensemble. Ça va être dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. On va commencer à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, dans ces passages-là, qu'est-ce qu'on voit? Bien-aimés, si Dieu, au verset 11, Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Le passage est clair. Aimer le monde au travers de Christ ou comme Christ nous a aimés, c'est un commandement. C'est quelque chose qui nous est demandé. C'est quelque chose qui nous est d'abord donné, puis c'est quelque chose qui nous est demandé. Ça nous est donné et ça nous est demandé. Dieu dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner du repos. On reçoit l'amour de Dieu, puis viens prendre mon joug, puis viens aimer le monde avec moi. Joins-toi à moi dans cette aventure-là. Le mot parfait veut dire pas parfait dans le sens que quelqu'un qui n'a jamais fait de faute. C'est parfait dans le sens ayant atteint son but. Si un navire est arrivé à destination, on va dire que sa course a été parfaite. Dans le sens que dans l'original, ça ne veut pas dire, comme je te dis, irréprochable, mais qu'il a atteint le but. Donc, pour moi, si je reste à « Ah, Seigneur, quand je ne le mérite pas, tu m'aimes quand même. » Ça, c'est l'amour de Dieu, mais elle n'est pas complète en moi tant que je n'aime pas aussi quand même le monde. Hein? Et donc, elle est complète quand que nous nous aimons les uns les autres. Puis, il parle vraiment de la famille chrétienne, Jean. Il parle que la communauté chrétienne est un argument pour qu'on croit en Dieu. Puis, que c'est un argument comme qu'on est des enfants de Dieu, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Verset 12, il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi Jean dit ça? Pourquoi Jean dit personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu demeure en nous? Pourquoi il dit ça dans ce passage-là? Pourquoi il dit ça? Parce que les gens, ils n'ont pas vu Dieu, puis Jean, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean aussi, puis il dit « Personne n'a jamais vu Dieu » dans le chapitre 1. Il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. » Fait que dans Jean 1, il dit « Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. » Mais là, il continue sa phrase, puis dans Jean, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Oh, même structure de phrase. Qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? « Dieu demeure en nous, et si nous le gars, il dit « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Qu'est-ce que Jean est en train de faire? Il est en train de dire, dans l'Évangile de Jean, c'est Christ qui l'a fait connaître. Dans l'Épître de Jean, c'est l'Église qui l'a fait connaître. C'est comme ça. C'est le corps de Christ. C'est nous, les uns les autres, nous faisons connaître Dieu qui est invisible. Donc, Dieu est invisible, mais les fruits de Dieu sont visibles. Ils sont visibles par le fait qu'il y a un amour entre nous comme ça. On continue au verset 13. « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et qu'il nous a donné son esprit. » On n'est pas tout seul. « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. J'ai-tu fait mieux ça? J'ai-tu fait dans mon coude cette fois-ci? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce passage-là? Il y a dans ce passage-là la même affaire. Il dit, tel il est. Tantôt, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais si on s'aime, Dieu est en nous. Alors, commence. Personne n'a jamais vu Dieu. Le verset dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Tel que Jésus-Christ aime le monde, Christ aime le monde en nous. Donc, pareil comme Christ aime le monde, Christ aime le monde en nous, et c'est en cela que son amour est parfait en nous, ou qu'il a atteint son accomplissement, sa destination, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir de l'assurance au jour du jugement? C'est important, si tu es chrétien, que tu as accepté que Jésus-Christ a porté tes péchés sur la croix, il y a un échange qui s'est passé, sa justice est devenue la tienne, ton péché est devenu le sien. Pas qu'il était pécheur, mais il a porté tes péchés. Et pour Dieu, une transaction qui est sans retour, où il t'a pardonné, il t'a racheté par son sang précieux, puis il n'y a plus de jugement. D'ailleurs, les versets qui suivent disent qu'on a connu son amour, puis l'amour, elle ne suppose pas qu'il va avoir un châtiment. Il n'y aura pas de châtiment, okay? Parce que ça a déjà été tombé là-dessus. Par contre, le chrétien va passer en jugement. Nous allons tous passer en jugement, qu'on appelle le tribunal de Christ. Puis le mot original ici aussi pour jugement, là, l'assurance au jour du jugement, c'est aussi tribunal. Le tribunal, c'est un tribunal qui est plus le mot pour podium dans l'original. Ça parle plus de remise de récompense, d'honneur. Dieu va donner des honneurs parce qu'on va avoir été des administrateurs de sa grâce, de son amour, de sa parole. On va avoir été des obéissants, des personnes obéissantes. Donc, sauf que moi, je vais avoir plus d'assurance quand je vais aller voir mon boss la prochaine fois que je vais aller en évaluation. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué. J'ai pratiqué depuis le temps qu'il me trouvait que j'avais pas d'assurance. Mais je me suis pratiqué. Je vais avoir de l'assurance quand je vais me présenter devant Christ. Si je n'ai pas entretenu de la colère, de l'amertume, du manque de pardon, si j'ai fait des actions qui étaient conformes à ce que je comprenais de son amour, je vais avoir de l'assurance quand je vais voir Christ. En même temps, quelqu'un ici qui n'aime pas comme il serait supposé d'aimer en tant que chrétien, il n'est soit pas un chrétien, puis il serait supposé de ne pas avoir d'assurance, lui, par rapport au jugement. Il devrait regarder et dire, « Boy, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? » Parce que tout ce que je lis dans ces passages-là, c'est quelque chose que je n'ai pas en moi. Fait que ça l'amène à avoir un manque d'assurance par rapport au jour du jugement, mais il y a le chrétien qui ne marche pas comme il devrait marcher, mais ça a déjà été réglé. Le tribunal. Mais ces gens-là, ils pensent qu'ils ne sont pas sauvés aussi, souvent, parce qu'ils ne voient pas l'évidence du fruit dans leur vie. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas sauvés, c'est qu'ils n'ont pas d'assurance par rapport, parce qu'ils ne marchent pas dans la pratique de cet amour-là. L'amour de la croix n'est pas versé dans leur cœur, fait qu'ils ne peuvent pas se tourner non plus vers le monde puis agir comme l'apôtre Jean dit. Fait qu'il y a un manque d'assurance. Mais ça ne veut pas dire qu'un manque d'assurance, c'est que je ne suis pas sauvé. Ça veut juste dire que je ne vois pas le fruit, fait que je me demande, c'est. Je me demande si j'en suis un. T'sais. Fait qu'il dit, afin qu'on ait de l'assurance, son amour est rendu parfait en nous. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Wow! On va tous comparaître devant Dieu. Il va y avoir un grand trône blanc pour ceux qui ont rejeté le Messie, qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils vont avoir été là parce que leur ami allait à l'église, leurs parents allaient à l'église, ils auront entendu l'Évangile, il y aura quelqu'un à côté d'eux qui aura vraiment fait la prière pour se repentir, eux, ils vont avoir reporté. Il y a un jour où la patience et la longanimité de notre Seigneur va arriver à son terme. Et là, il va avoir le grand trône blanc pour cette personne qui va se tenir devant tous les témoignages de l'amour qu'elle a reçu de la part de Dieu. La terre, le ciel, toutes les démonstrations, tous les gestes qui vont avoir été faits pour attirer cette personne-là vont lui être démontrés. Et il va avoir une évidence qui va être montrée que cette personne a tourné le dos à son Créateur. Puis, il y aura pour nous, les chrétiens, un tribunal où Dieu va dire « Je t'ai racheté à un grand prix, mais pas juste pour toi, mais aussi pour les autres. Puis, je veux que tu rendes compte de ton administration. Puis, je veux aussi te donner des récompenses à chaque fois que tu l'as fait. » Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est à apprendre la miséricorde. On va finir les versets 18 à 19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, il y a une certaine évaluation ici-bas. On dit « hey! » J'attends pas que tu arrives à l'examen, là, quand tous les livres vont être fermés, puis tu peux pas te reprendre. Tu peux pas corriger le tir. T'es pas en train de dérailler, parce que le but de Dieu, c'est pas une raille, c'est une navigation à bateau. T'es peut-être en train de t'en aller un petit peu plus loin que le but pour lequel, tu t'aimes juste ceux qui t'aiment, tu sais, puis t'es peut-être en train de t'éloigner, mais reviens. Fais juste revenir, corrige-toi. Les enfants de Dieu, il dit, les enfants de Dieu, si on dit qu'on aime Dieu, ben, il faut aussi aimer ceux qui sont nés de lui, hein. Que si on dit qu'on aime Dieu, mais qu'on n'aime pas notre frère, ben on s'en fait à croire. Fait que là, on se fait évaluer. La Bible, elle vient nous critiquer, elle vient nous évaluer, puis elle dit, OK, bon, ben parfait. Pourquoi que j'aime pas, Seigneur? Ben si ça te dérange-tu, on va aller dans la pratique de la chose. Je vais te parler de ta relation avec telle personne. Puis là, le Saint-Esprit va commencer à nous montrer qu'il y a un manque d'amour. Enfin, il va nous montrer une voie par excellence. Vous savez, peu importe ce que vous êtes doué à faire dans le monde, il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre votre place pour faire cette chose-là. Mais il n'y a pas grand monde qui ont compris l'amour de Christ et qui s'applique à la mettre en pratique à chaque jour. Et ça l'implique aussi même d'évangéliser des gens pour leur dire que Dieu veut les sauver. Il n'y en a pas beaucoup qui sont équipés comme vous pour faire ça. Mais nous avons connu l'amour de Dieu, puis on peut la faire connaître. Donc, les gens, il y a très peu de gens qui sont équipés pour faire qu'est-ce que vous avez demandé à vous, les chrétiens, de faire à moi. Puis en tant que demeure de Dieu, je suis appelé, en tant que membre du corps de Christ, à être ce qu'il est pour le monde. Donc, imaginez une discussion. « Ouais, mais Seigneur, les gens, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas ça. Les gens, ils veulent pas écouter la parole. » Bien, ça, là, c'est des gros mensonges qui viennent de l'enfer. Tu sais, on est là, on rentre dans les magasins, il faut se tenir à 2 mètres de tout le monde. Fait que là, hier, j'ai un peu dit, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Hein. Je dis, mais j'ai-tu le droit de vous dire que Jésus vous aime? T'sais, fait que j'ai dit ça à la femme. Ah, la femme m'a dit, ah, ça m'a fait chaud au cœur, merci. Puis là, je me suis retourné, puis j'étais là, okay, mais ça fait pas mal. C'est pas vrai que tout le monde ne sont pas. Elle, ça a fait sa journée. Hein. Ce que je veux dire par là, je suis moi-même, j'ai ces pensées-là, le monde ne veut rien savoir, le monde est fermé. C'est pas vrai. En tout cas, ils ne sont pas fermés à des démonstrations authentiques d'amour. On ne les aime pas pour qu'ils viennent dans notre église, on ne les aime pas pour qu'ils deviennent des chrétiens, on les aime parce que Dieu les aime. Puis les gens le sentent quand on instrumentalise notre amour, puis on fait des choses, tu sais, dans le but qu'ils deviennent des chrétiens. Les gens le sentent, ça. Mais imaginez une discussion avec le Père. Jésus s'apprête à venir sur la terre, puis le Père, il dit, tu sais que ceux qui étudient la Bible, là, ceux qui étudient l'Ancien Testament, ta venue, puis tout ça, là, ça va être les premiers à vouloir te crucifier. Qu'est-ce que tu fais? J'y vais quand même. Est-ce que tu sais que même ta famille, tes frères, croiront pas en toi jusqu'à temps que tu sois crucifié, puis même que tu sois ressuscité. Avant ça, ils ne voudront rien savoir de ta mission. Là. Ils vont, dans Jean 7, ils vont essayer de te faire une campagne publicitaire, mais c'est parce qu'ils ne croient pas en toi. Tu sais. C'est beau. Le Père dit, est-ce que tu sais que la nation choisie pour recevoir le Messie, c'est elle qui va te crucifier? Fait que finalement, ta nation, là, tous les Juifs, là, ils vont te traiter de sorcier. Ils vont dire que tu as le nom tatoué de Dieu en dessous de la peau, que tu es tes chefs des démons. À chaque miracle que tu vas faire, ils vont donner des versions autres que la vraie réalité. C'est beau. J'y vais quand même. Ça, c'est l'amour de Christ. Les obstacles n'empêchent pas la démonstration de cet amour-là. J'arrive à la fin de mon message, j'arrive à ma conclusion. La miséricorde, c'est un amour qui ne cesse pas d'être manifesté même en présence de l'indignité, même en présence de l'adversité. Elle continue, même en présence d'une offense, à être manifestée. Ça ne veut pas dire de rester dans des situations d'abus, là, puis tout ça, mais c'est pas de ça qu'on parle, de toute façon. Ça veut dire de continuer à aimer. Maintenant, comment est-ce qu'on va passer de la théorie à la pratique dans le domaine de la miséricorde? Eh bien, peut-être que ce que vous pourriez faire, c'est juste des petites idées, puis en passant, mercredi, la question, ça va être justement... Ah, mon anneau est en train de céder. Dites-le pas, ma femme. Parce que je joue toujours avec mon anneau, puis là, ben, je vais en acheter un autre. Comment passer de la théorie à... Oui, c'est ça, mercredi, on va parler comment est-ce que pratiquement on pourrait vivre l'amour de Christ entre nous. Je crois qu'on est dans les temps de la fin. On est encore plus dans les temps de la fin que l'apôtre Paul quand il a dit on est dans les temps de la fin. Mais on peut dénoncer le gouvernement qui va devenir totalitaire, puis qui va contrôler les libertés individuelles, puis on peut aller sur les réseaux sociaux puis dire que c'est le gouvernement de la bête, puis tout ça, on peut faire ça. Ou on peut annoncer Christ avec des fruits qui sont dignes de cette proclamation-là. Des fruits qui démontrent qu'on est des bonnes personnes pour ces gens-là, parce que Christ habite en nous. Donc, comment est-ce qu'on va faire dans les derniers temps? Bien, je pense que les églises qui servent de salles de spectacle et que les chrétiens viennent, et la seule portion de la parole de Dieu, c'est quand il y a un prédicateur qui prêche, ils se nourrissent au don d'une personne au lieu de se nourrir à Dieu dans le reste de leur semaine. Ces gens-là vont, s'il n'y a plus de rassemblement permis, ces gens-là vont sécher chez eux. Ils n'auront plus la motivation de rester dans l'Écriture et tout ça. Donc, ça va être important que l'Église ici, puis les Églises, se comportent plus comme des familles que comme des salles de spectacle. On a vu dans le temps du COVID, les églises qui sont petites sont à la vogue. C'est-à-dire qu'on a su, tu sais, on savait qui n'était pas dans le radar, là. On se connaît, on est plus comme des familles. Priez avant un message, avant une lecture, avant un cours biblique, puis dites au Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu aimerais que je fasse pour quelqu'un aujourd'hui? Là, vous allez voir comment les gens ont interagi, qu'est-ce qui faisait plaisir au Seigneur. Vous allez voir comment le Seigneur agissait, tout ça, puis il va vous répondre par son esprit. Quand vous êtes tenté dans un groupe de personnes d'être absorbé par vous-même, par exemple, vous allez à un barbecue avec des amis, puis là, ben, chacun pense à soi. Tu sais, on a amené notre lunch, on sait. Alors que vous êtes tenté de penser à vous, survolez votre journée d'avance par la prière, puis dites, Seigneur, aujourd'hui, je vais manger, il va y avoir telle personne, après ça, je vais travailler, il y a tel collègue. Ou vous allez voyager avec quelqu'un, ou peu importe. Dites au Seigneur, les gens que vous allez rencontrer, puis demandez au Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu t'attends de moi et que je pourrais les rendre un peu plus heureux? Okay? C'est-à-dire que là, déjà, là, tu sors je vais être en milieu de gens, mais je vais penser à moi. C'est comment je pourrais être un serviteur, comment je pourrais faire quelque chose pour eux. Tu peux répondre à des questions comme, de quoi ils ont peur? Qu'est-ce qu'ils souffrent? C'est quoi qui leur fait vraiment plaisir? En faisant ces exercices-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire, ben écoute, moi, l'autre est aussi important que moi. Hein? Fait que ce que je vais faire, je vais essayer de penser pas juste à moi, je vais essayer de penser à eux. Et là, tu pars dans ta journée, puis tu réalises que tu es avec Jésus et que lui va attirer ton attention pour faire quelque chose. Là, à un moment donné, elle va arriver, là, ton ami, elle va arriver, elle va avoir les deux bras pleins, puis elle va essayer de fermer la porte avec son pied, tu sais. Mais toi, tu es tellement pas absorbé par toi que tout de suite, tu es aux aguets. Tu es toujours en train de te poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'autre? Fait que quand ça arrive, tu déposes la chose que tu avais dans les mains, tu dis, hey, continue, je vais fermer la porte. Ou, ton chum, il a son bébé dans les bras, puis il est en train de faire cuire des saucisses sur le barbecue, mais à chaque fois qu'il s'approche du barbecue, le bébé pleure, parce que là, il fait trop chaud. Fait que tu dis, ben, je vais prendre notre bébé. Bébé, il veut pas aller dans tes bras, il te connaît pas. Fait que tu dis, ben, d'abord, je vais tourner tes saucisses. Ah, ben, merci. Fait que là, tu tournes tes saucisses, puis il est content. C'est rien. Mais dans le monde, on est occupé par soi. Puis on le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est occupé par soi. Mais quand on vient à Jésus, puis qu'on lui donne notre fardeau qui est lourd, qui nous rend lourd et fatigué, il nous donne du repos, on arrive avec les gens et on est disponible pour les gens. Il y en a que c'est le don de service, il y en a que c'est des beaux mots. Vous avez de talent pour dire des mots. Gilles, ça connecte avec un enfant. Dès que ça commence à parler, Gilles, il met l'enfant à l'aise. Fait que Gilles s'en va dans un party, il y a du monde, puis là, il y a un ado qui est là, gêné, qui parle à personne dans son coin. Puis tu vois que le jeune n'est pas bien, mais ses parents, ils ont dit, tu viens au barbecue. Tu sais. Gilles s'en va à côté, il commence à parler avec. Puis là tu vois les couleurs du jeune encore recommencent. Puis là, il est content. C'est ça, l'amour de Christ. C'est pas plus compliqué que ça. C'est d'être là, puis de ne pas penser seulement à soi. C'est de partir d'avance, puis de dire, tu sais, je vais rencontrer des gens que je ne connais pas, il va y en avoir d'autres que je vais connaître, tout ça. J'aimerais ça te servir, Seigneur. Et le Saint-Esprit, on ne pourra pas dire c'est le Saint-Esprit qui nous l'a dit, parce qu'on ne veut pas prendre nos pensées pour celles de Dieu. Mais quand il y a des idées qui viennent dans notre tête et qui ne lâchent pas, ben, crime, fais-le. Écris un mot. Tu es bonne, toi, pour écrire des mots. Dis à la personne comment elle est importante pour toi, etc. Donc, en priant pour les gens qu'on va rencontrer, peut-être le mot va venir après de l'avoir rencontré, mais c'est parce qu'on a été aux aguets, parce qu'avant d'arriver, on a déjà dit au Seigneur qu'on rencontrerait ces gens-là. On revient chez soi le soir, on a à cœur d'écrire un mot. C'est peut-être le Saint-Esprit qui est en train de nous dire, donne-y une petite démonstration concrète qu'elle est importante. Quand tu es tenté de médire ou de te plaindre d'un patron qui fait des mauvaises décisions, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour ton patron. Tu le défends aussi. Si, par contre, il y a des faits qui ne sont pas corrects, tu corriges des choses. Matthieu 5, 44 dit, « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Hey, Seigneur, je ne suis pas capable. Quand tu pries pour tous, mais prie d'abord pour ceux qui ne t'aiment pas. Tu es sûr que ça va être couvert. Après ça va être facile, tu vas prier pour ceux qui t'aiment. Okay? Quand tu es tenté de vivre chacun pour soi, ta petite vie, tout ça, invite une personne seule autour d'un repas ou d'un petit feu. Dans les derniers temps, il y aura un abandon visible de la foi. Ça ne dit pas que les gens vont croyer et ne croient plus, c'est qu'ils vont s'éloigner de ce qu'ils auraient pu croire. Le mot, c'est apostasia, ça veut dire se détourner de vers quelque chose. C'est pas que tu étais dedans et tu en es sorti, c'est que tu vas plus du tout dans cette direction-là. Avec le COVID, ça nous a donné juste un exemple que les rassemblements peuvent arrêter. Presque, tu sais, toutes les églises il y a beaucoup d'églises qui n'étaient pas équipées pour faire face à cette crise-là. Vous savez qu'en Russie, quand le communisme est arrivé, les églises ne savaient plus comment opérer. Mais en Chine, les églises, ça prospère. Puis ils sont tous underground. Pourquoi? Bien parce que c'est pas un spectacle. C'est pas une salle où on vient écouter quelqu'un, puis après ça, on vit sur ce gaz-là durant la semaine. On a une communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, les églises qui vont se comporter comme des familles vont garder leur attraction. Puis en plus, les gens vont dire, c'est pas la grosseur de ton église, c'est que j'ai vu qu'est-ce que lui t'a fait. Puis je sais que tu es resté, puis tu as persévéré avec. Puis je vois comment vous vous aimez entre vous autres, puis vous vous pardonnez. Vous êtes une vraie famille. Il arrive toutes sortes d'affaires comme dans une vraie famille. Mais vous persévérez dans quelque chose que j'ai le goût, moi, d'aller. Et ça ne sera pas la grosseur de l'Église, mais l'attraction des petites églises, ça va être qu'on va vivre plus comme des familles. Ma série est terminée. Mes prochaines interventions, puisque je sens qu'on est de plus en plus vers les temps de la fin, je vais donner un enseignement sur Apocalypse 2 et 3, les sept lettres aux églises. Et le titre de la série va s'appeler « À celui qui vaincra ». Ça va être, j'imagine, une suite pas mal de ça. Fait que je vous invite, on a une invitation de marcher humblement avec notre Dieu. Puis pour le message de mercredi, c'est une vidéo de 1 minute. On va l'écouter, puis après ça, je vous relâche.
Dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Il y aura, Jésus nous dit, un abandon massif de la religion visible ou de la foi. Et c'est important de se poser la question en tant que chrétien, dans quel temps on est. Et se rappeler des paroles du Seigneur Jésus qui nous dit que les gens vont reconnaître que nous sommes disciples de Jésus-Christ à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc, si mon message de dimanche était beaucoup plus peut-être théorique, c'était de transférer la théorie vers la pratique, ma question de ce mercredi va être beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait pratiquer l'amour de Christ dans l'Église. Donc, arriver avec des solutions, arriver avec des idées pratiques, les églises qui vont réussir à passer dans les derniers temps, c'est des églises qui vont se comporter plus comme des familles. À mercredi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait remettre ça au Seigneur?
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.